Quelques challengers et des favoris, qu'est-ce qui s'est passé dans le box-office ce week-end, à la fois en France et à l'international? On revient sur cette Civil War au cœur des chiffres. C'est parti, c'est Opening Weekend.
C'est hyper beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Débrief Film dans Opening Weekend pour un nouveau débrief du week-end écoulé à la fois dans le monde et en France. Et pour l'occasion, je suis ce soir entouré de deux de mes camarades, à commencer par Julien Bernard, dont c'est le retour ce soir. Salut Julien.
Non, je crois que j'étais là la semaine dernière.
Ouais, ça, on est perdu avec toutes ces vacances, là, je ne sais plus parce que moi-même je suis de retour.
En tout cas, bonjour tout le monde et ravi d'être avec vous ce soir.
Et Arthur Pavlovski, salut Arthur, toujours fidèle au poste lui.
Toujours, salut Aurélien, salut à tous.
Il ne prend jamais de vacances.
Et non, il est parti, il est lancé. Et à l'image de ces sorties de films qui s'enchaînent, il est toujours là. Mais c'est vrai qu'on pense aussi à ceux qui nous rejoindront évidemment dans les prochaines émissions. À noter que vous retrouverez ces prochains jours vos rendez-vous auxquels vous êtes habitués depuis le début de l'année, à savoir le podcast avec André Labouze, Un café avec Dédé, mais également C'était mon film de Charlotte Escolier qui va revenir avec un nouveau numéro tout prochainement. N'hésitez pas, on le redit, mais c'est important pour nous soutenir, à liker, à vous abonner déjà, c'est une première chose, à télécharger l'application Débrief Film pour ne rien rater. Si jamais vous n'êtes pas trop sur les réseaux, on poste tout sur cette application disponible à la fois sur Apple et Android. Et puis aussi, si vous pouvez partager nos émissions, et bien ça fait peut-être découvrir ces podcasts à d'autres personnes. À noter que vous aurez aussi de belles surprises à venir. On est en train de travailler là sur des interviews et des rencontres qui, on l'espère, vous satisferont. On reviendra peut-être d'ailleurs vers vous prochainement pour des rendez-vous en live, on verra. Enfin, on essaye en tout cas de monter des choses pour étoffer voilà, cet univers des briefings. Et on vous remercie, vous qui nous écoutez, on le sait, chaque semaine, parfois même plusieurs fois dans la semaine, que ce soit en faisant vos tâches ménagères ou en vous rendant sur votre lieu de travail. C'est un honneur de vous avoir parmi nos plus fidèles auditeurs. Ceci étant dit, eh bien, on va revenir évidemment sur tout ce qui s'est passé ce week-end, en espérant que les chiffres, notamment France, sont un peu en progression. Peut-être, Julien, peut-on commencer d'abord par un tour de piste sur le box-office US?
Je croyais que tu voulais d'abord lancer les news, tu vois, parler de l'UGC Normandie, de Civil War, avant de lancer les chiffres, mais c'est comme tu veux.
Oui, l'UGC Normandie qui devrait fermer prochainement.
Alors, le 15 juin, je crois. Je crois que ça a été annoncé aujourd'hui.
Ah d'accord, la date est tombée aujourd'hui. 15 juin, bah, écoutez, c'est évidemment une tristesse infinie, puisqu'on sait combien les Champs-Élysées ont été le marqueur, il fut un temps, on va dire, du...
Qu'Arthur n'a pas connu.
Un temps qu'Arthur n'a pas connu. un temps où les Champs-Élysées étaient marqués le pouls du cinéma, puisque il faut se rappeler qu'avant qu'il y ait le 9h des Halles et toute cette attention portée au premier démarrage, beaucoup témoignent, y compris d'ailleurs André Labouze hein, sur nos ondes, de ce temps où on se réunissait sur les Champs-Élysées, non loin de feu Pizza Pino, qui n'est plus là non plus, pour regarder les files d'attente au Gaumont-Marignan, au Gaumont Ambassade et un peu plus haut évidemment sur l'UGC Normandie.
Le Georges V.
UGC Georges V, enfin voilà, autant de noms qui aujourd'hui sont amenés à
le Virgin Megastore.
Ne me fais pas non plus pleurer, mon cher Arthur, parce que c'est vrai que ceux qui ont connu l'époque de Virgin Megastore ont parfois la larmichette à l'œil, tant c'était un monument de la culture.
Et les séances de minuit. En tout cas, moi, je ne sais pas s'il y en avait d'autres, mais j'allais voir les films à minuit sur les Champs-Élysées.
C'était le quartier le plus convoité à un moment donné de tout Paris, et, du temps où le marché parisien était aussi autre chose qu'aujourd'hui.
Flamboyant.
Voilà, et il faut quand même signaler qu'il y a quelques irréductibles hein, qui bataillent encore, à savoir le Lincoln. On salue d'ailleurs notre ami Samuel Merle, s'il nous écoute, qui je crois... s'en sort plutôt pas mal avec, avec les salles multicinées, donc les 7 Parnassiens, les 5 Comartins et le Lincoln. On voit sur les chiffres, ça fait partie des bonnes surprises en termes de fréquentation de l'après-Covid. Et puis aussi le Balzac, hein, qui continue.
Et le Publicis.
Et le Publicis, bien sûr, un peu plus haut sur les
champs. On est presque sur des cinémas de quartier.
Voilà, c'est devenu un quartier différent. Alors, bon, c'est l'UGC Normandie, c'est quand même, mine de rien, peut-être l'une des plus belles salles de Paris qui s'apprête à fermer. Donc, ça fait mal au cœur. On pensera d'ailleurs à tous ceux qui ont. Parce que j'ai eu, je sais pas pour vous, mais beaucoup de témoignages de gens qui ont découvert des films mythiques à l'UGC Normandie. Je pense notamment à Xavier Albert qui avait été à notre micro l'année dernière au moment de la sortie de Super Mario et qui nous avait dit qu'il avait découvert Die Hard dans cette salle mythique et beaucoup ont découvert des films importants sur cette salle de l'UGC Normandie.
Moi je me souviens de David Fincher, Fight Club.
Ah ouais.
Incroyable.
1999.
Et alors il n'y a pas longtemps, on est allé voir Dali et il y avait Claude Lelouch qui je crois va beaucoup aussi au cinéma sur les Champs-Élysées.
Claude Lelouch qui a aussi son Club 13, non loin de l'Arc de Triomphe, qui lui perdure, mais c'est une salle pour le coup privée. Et on espère que les salles qui restent resteront des salles ouvertes évidemment à tous les publics. Il y a encore aussi, on ne l'a pas signalé, mais le Club de l'Étoile hein, qui fait aussi des belles soirées près des Champs. Mais ce n'est plus vraiment les Champs, là. On est au-delà de strict sensu Champs-Élysées. Mais voilà, on voulait dire un petit mot, saluer évidemment tous ceux qui sont à la manette dans cette salle mythique. D'ailleurs, même Patrice Lemarchand était anciennement directeur de l'UGC Normandie, celui que vous retrouvez dans quelques-unes de nos vidéos des Halles, puisqu'il est le directeur actuel de l'UGC Cinéma. Enfin voilà, beaucoup, beaucoup de monde, enfin tout le cinéma est passé par les Champs-Élysées, quoi, en fait, si on devait résumer. Et l'autre sujet que tu évoquais avant de nous orienter vers l'international, c'est la petite polémique, Arthur, qui est apparue ces derniers jours au sujet de Civil War, dont on va reparler, bien sûr, à la fois aux US, dans le monde et en France, au sujet du marketing de Civil War.
Oui, alors il est apparu qu'il semblerait que le distributeur, donc A24, ait utilisé des images générées par intelligence artificielle pour faire la promotion du film. Donc c'est vrai que ça pose certaines questions. Pourquoi ce distributeur indépendant utilise ce procédé justement pour promouvoir un film
Pourquoi, jusqu'où peut-on aller en fait au-delà du film pour le promouvoir? C'est vrai qu'il y a eu tout ce débat autour de l'intelligence artificielle au moment des grèves à Hollywood en fin d'année dernière et on pouvait se demander comment cela allait se traduire. Alors on pensait plus côté scénario, côté jeu d'acteur.
J'allais dire qu'ils n'avaient pas pensé aux affiches.
Mais les affiches n'étaient pas forcément évoquées. Enfin, on se doutait qu'il y aurait forcément un moment ou un autre l'utilisation d'IA. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser. C'est est-ce que c'est pas déjà le cas dans bon nombre d'agences, de créa d'utiliser, ou en tout cas d'être assisté par l'intelligence artificielle, c'est pas un gros mot non plus.
Après,
mais la question, c'est jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à effectivement montrer, comme c'est le cas pour Civil War, des choses qui ne sont pas du tout dans le film? Est-ce que c'est vraiment de la publicité mensongère, comme certains internautes le suggèrent? Je sais pas, quel est votre avis, vous?
Ouais, parce que les affiches ont été utilisées, ont été imprimées, et puis on servi à faire la pub du film de manière physique.
Ouais.
Mais quand tu fais une affiche de film, de toute façon, tu récupères des éléments aussi à droite, à gauche, tu enjolives. En fait, alors il faut que ça parle du film. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, même si on n'est pas au courant, on se dit pas qu'on est trompé. Alors on va pas voir la même image. Après, j'ai pas eu le temps de voir le film. Donc, est-ce que vraiment il y a une, on se sent trompé entre l'affiche et le film que je vais voir? C'est la question peut-être.
En fait, ce qui, je pense, pose question dans le cas de figure de Civil War, c'est que le film, de toute évidence, a attiré du public avec ses affiches, et parce que les affiches sont des images choc.
C'est vrai qu'on on pense que c'est un film à très gros budget.
Et voilà. Et y a cette idée effectivement que tu soulèves, qui est aussi d'enjoliver, mais quelque chose qui finalement a déjà existé par ailleurs, hein, avant même l'ordinateur, puisqu'on se souvient même, pour ceux qui ont vu l'expo de James Cameron à la Cinémathèque, magnifique expo qu'on recommande par ailleurs, il faut voir que James Cameron, au début de sa carrière, était embauché pour magnifier des séries B ou Z avec des affiches qui laissaient penser que c'était des blockbusters. Ouais. Des affiches dessinées. Et j'insiste là-dessus, mmh. puisque c'était lui qui faisait tous les dessins, et là, pour le coup, sans assistance d'intelligence artificielle. Mais c'est quelque chose qui a toujours existé. On se souvient aussi du des jeux vidéo dans les années 80 ou 90. Sur les premiers jeux vidéo, il y avait les jaquettes qui faisaient rêver avec des scènes qui n'étaient pas vraiment dans les jeux. Hein. Je vous défie de les trouver telles quelles dans les jeux. Donc il y a toujours eu un peu cette idée de magnifier un film, mais là, qui est d'autant plus ostentatoire que les scènes montrées, ou en tout cas suggérées sur les affiches de Civil War, sont pas réellement montrées dans le film. À titre personnel, je trouve que c'est plutôt malin. Je trouve que même ça ouvre l'univers. Alors, est-ce que ce sera exploité d'une façon ou d'une autre dans des suites ou des spin-offs, je ne sais pas, mais je trouve en tout cas que ça ne dévoile pas trop le film tout en montrant dans l'univers, quel univers on est. Voilà, maintenant, bon, je peux comprendre aussi que ça choque.
Après, il faudrait peut-être un petit indicateur sur l'affiche, je ne sais pas, ou...
Peut-être,
tu vois, pour générer, ouais, exactement.
Ben oui, c'est vrai, je suis d'accord, plutôt d'accord avec toi, Aurélien. Je ne sais pas si c'est par faute de budget, mais si ça permet justement d'étendre l'imaginaire qu'on peut se faire en voyant le film et montrer des images qui sont proposées justement générées par ordinateur de ce monde un peu dystopique, apocalyptique, c'est toujours très intéressant.
Voilà, mais donc le débat est ouvert, on en reparlera évidemment parce qu'à mon avis,
ce
n'est que le premier cas d'une longue série. D'ailleurs, c'est pas non plus tout à fait étranger à ce qu'on voit fleurir aussi sur les réseaux où certains lieux extrêmement connus sont habillés par une sorte de réalité augmentée avec des éléments d'un film. Ça, c'est, vous en avez peut-être vu, hein, de ces vidéos.
On en a vu, ça foisonne aujourd'hui.
Ça foisonne quasiment à toutes les grosses sorties, pour le coup, de Major. Là, ce qui frappe, c'est effectivement la presque dichotomie entre A24, qui est l'emblème du cinéma indépendant aujourd'hui, et cette volonté d'aller sur un terrain avant-gardiste qui tente de mettre le film à un endroit où il n'était peut-être pas prévu au départ, mais qui finalement attire du monde en salle. Et est-ce que le but d'une affiche, c'est pas aussi d'attirer du monde? Et puis surtout quand on voit les retours, finalement, j'ai l'impression que le film, majoritairement, a de bons retours publics. Donc,
ce qui est doublement drôle, c'est que c'est utilisé pour promouvoir un film d'Alex Garland, dont le premier film était Ex Machina, qui mettait justement une sorte d'avertissement sur les dangers de l'intelligence artificielle. Donc, la boucle est bouclée.
Ouais, voilà, Alex Garland qui a toujours été à l'affût de ses... de ce qui fonctionne dans le monde contemporain. On rappellera quand même qu'il était aussi auteur de romans, La Plage notamment, et il avait aussi participé bien sûr à 28 jours plus tard de Danny Boyle. Donc c'est quelqu'un de très important pour tout ce qui est élaboration de monde futuriste et tout ça. Mais bon, on en reparlera un peu plus tard. L'autre dernier sujet, troisième et dernier sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était le lancement, alors c'était déjà le 8 avril dernier, donc c'était il y a quelques jours, mais on n'en avait pas parlé, le lancement un peu en catimini, il faut le bien le dire, ou en tout cas uniquement côté professionnel, du service de vidéo à la demande de Pathé, le certain Pathé Home. Je ne sais pas si vous êtes allés faire un tour, messieurs, sur ce service. Mais j'y suis allé par curiosité, et donc ça a été lancé, je vous dis, au début du mois, et l'idée était d'atteindre environ 6000 films d'ici un an, sachant qu'il y a 3000 films de base. Alors c'est un service, qu'on soit bien clair, pour l'instant, de VOD, donc c'est autrement dit ouvert à tous les films de distributeurs, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur Pathé Home, vous avez grosso modo les mêmes films proposés que sur Apple ou sur Orange ou sur Canal. La différence, c'est que c'est Pathé et que votre compte cinéma, si vous avez une carte d'adhésion Pathé, fonctionne aussi pour le service VOD. Et on imagine très bien, et c'est là où je trouve ça vraiment intéressant, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est que d'une certaine façon, c'est aussi la réponse de Pathé à l'arrivée des nouvelles offres UGC illimitées dont on vous a déjà parlé dans cette émission, puisqu'on a vu que l'UGC tentait de redynamiser son offre illimitée à l'occasion de l'anniversaire de la formule en proposant à la fois des offres à destination des familles, mais aussi en couplant pour les jeunes un abonnement Canal à un abonnement UGC illimité. Enfin, il y avait une tentative vraiment d'élargir, et même UGC avec Opéra et UGC Cinéma mêlés. Enfin, voilà, UGC a vraiment mis un gros coup de pied dans la fourmilière avec ces nouvelles offres, et sans pour autant donner à voir des nouvelles offres réelles, Pathé est en train peut-être, avec cette plateforme qui a certainement coûté assez cher en développement, de se préparer pour la suite, parce qu'on imagine très bien aussi des ponts entre les cartes illimitées.
C'est ce que j'allais dire, exactement. Non, c'est une bonne idée. Et puis, de toute façon, je pense qu'il faut arrêter de diaboliser. En fait, c'est complémentaire. C'est-à-dire que ta cinéphilie, tu t'es jamais faite seulement au cinéma.
Voilà, c'est ça. C'est ceux qui mangent du cinéma en mangent partout.
Exactement. Ça veut dire qu'il y en a qui sont nés dans les vidéoclubs. Il y en a qui seront nés avec les plateformes de streaming. Après, voilà, c'est vrai que ça dépend des propositions. Ça dépend aussi un petit peu de la qualité. Il y a peut-être un petit peu moins d'indicateurs aujourd'hui pour te dire, tiens, c'est bien de regarder ça, c'est bien de regarder ça. C'était plus encadré avant. Donc forcément, il y en a qui vont se perdre un petit peu. Mais est-ce que l'objectif, c'est pas de se perdre pour se retrouver et de se dire après, bah tiens, je vais découvrir le cinéma indépendant, avant je vais découvrir les blockbusters. Mais alors, différemment. Voilà, donc, comme tu le dis, de toute façon, après, ça va forcément engendrer des ponts entre le cinéma. Par exemple, je sais pas, je consomme 10 films VOD, j'ai le droit à une place gratuite dans un cinéma Pathé.
Alors moi, je pense même à autre chose, parce que ce que pas grand monde n'a souligné, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que sur la plateforme, il y a de mis en avant à la fois des collections, mais donc enfin, comme tout le monde fait, hein, sur ces plateformes, mais avec un accent mis évidemment sur certaines collections Pathé, et ça, je trouve ça plutôt malin, mais aussi d'une certaine façon un écho avec ce que Sony fait, mais sans qu'on en parle beaucoup d'ailleurs, via sa PlayStation 5, et son service. Au départ, c'était uniquement sur les télés Sony. Sony a lancé un service de VOD un peu dans le même style, qui au départ était uniquement de l'achat ou de la location, comme c'est le cas pour Pathé Home aujourd'hui. Et depuis l'année dernière, ils ont importé ce service, qui n'était uniquement destiné aux télés au départ, aux télés Sony, sur la PlayStation 5, et ça s'appelle Sony Picture Score. Et là où c'est malin, c'est qu'ils ont couplé l'abonnement gaming, l'équivalent du Netflix du gaming sur PlayStation, à l'offre Sony Picture Score avec une certaine quantité de films, voilà, qui sont disponibles gratuitement, type SVOD en fait. C'est-à-dire que sans que vous ayez à payer pour le voir ou le revoir, vous avez chaque mois des nouveaux titres. Alors est-ce que ce sera ça qui sera mis en place à un moment ou à un autre? Peut-être. Dans tous les cas, je trouve ça passionnant, parce que c'est vrai que, par exemple, pour tous ceux qui jouent, et ils sont nombreux, aux jeux vidéo, mais qui aussi ont envie de voir des films, bah, quand ils arrivent sur l'interface Sony, ils voient de mis en avant évidemment des films Sony prioritairement. Mais ils ont comme ça cet univers cinéma qui s'offre à eux, et on sait combien aussi Sony a été important à un moment donné pour le cinéma et toute l'industrie derrière du DVD, pour lancer l'industrie du DVD au début des années 2000. Là, aujourd'hui, voilà, il se passe des choses côté gaming, et entre les abonnements illimités à certains jeux et les abonnements cinéma. Est-ce que l'abonnement illimité cinéma va aussi déboucher sur quelques films accessibles gratuitement en streaming? C'est tout à fait possible.
Et on le voit aussi avec Netflix, qui passe un petit peu aux jeux vidéo aussi maintenant.
Ouais. Ah oui, j'ai vu passer, ouais, c'est ça.
Bah, y a aussi du jeu vidéo sur Netflix. Enfin, voilà,
tout. Mais alors attention, parce qu'en haut de la pyramide, on retrouve la salle de cinéma.
Exactement, et c'est pour ça que là, dans le cas de Pathé, ça nous intéresse tout particulièrement, sinon on ne vous en parlerait pas. C'est que Pathé lance ce service Home, mais sur un site qui est directement connecté au site des cinémas Pathé.
Au compte des cartes,
évidemment, de ceux qui ont la carte de fidélité Pathé. Donc tout ça, voilà, et je trouve passionnant à regarder, parce que ça redistribue les cartes. Et la grosse différence, bien sûr, entre un Pathé et un Canal, parce qu'on pourra se dire, oui, mais Studio Canal, ils ont des films aussi. C'est vrai que Studio Canal, sur sa plateforme, peut mettre en avant éventuellement des films Studio Canal, mais ils n'ont pas les salles de cinéma. Et UGC, de leur côté, n'ont pas le service VOD. Donc voilà, chacun essaie d'apporter sa carte pour avoir Un système qui est évidemment plus alléchant que l'autre.
Et au milieu de tout ça, l'IA.
Vous voyez, on est submergé de sujets dans tous les sens, mais c'est des petits éléments comme ça qui apparaissent, qui pop là en ce moment, et on voit que tout ça va avoir certainement des conséquences dans les mois et les années à venir.
Oui, bien sûr, on a presque envie d'être 5 ans plus tard pour voir en fait ce qui a perduré, comment on consomme tout ça, qu'est-ce qui s'est passé, parce que de toute façon, c'est des évolutions permanentes, c'est presque des tests. On est sur une phase test, on est vraiment sur un changement complet de ce qu'on a pu connaître, donc forcément, ça inquiète, et en même temps, on est curieux, donc voilà, c'est des nouvelles avancées, on sait que ça va évoluer.
Ouais, et puis on voit que chacun a sa stratégie, hein. On parlait de Sciocanal, de Pathé, on peut aussi parler de Gaumont, qui a lancé une plateforme, pour le coup, de SVOD, où on ne peut pas acheter ou louer, mais c'est vraiment de l'abonnement, avec un catalogue de films uniquement noir et blanc, et peu visible, quasiment même invisible sur les plateformes de streaming traditionnelles, et mis à jour de façon mensuelle. De leur côté,
MK2.
On voit MK2 aussi qui a sa plateforme. On voit aussi que, évidemment, du côté des majors, il y a Universal Plus qui est dispo avec certaines offres, mais là on bascule vraiment sur la SVOD, tout comme avec Paramount Plus, tout comme HBO qui arrive, Disney Plus qui est évidemment bien en place. Enfin voilà, chacun essaye de se placer, mais c'est vrai que là où c'est original côté Pathé, et à mon sens une vraie nouveauté, c'est de relier le compte d'abonnement à un cinéma, ou en tout cas à une série de cinéma, à un abonnement home, donc à des choses qu'on voit chez soi.
Et sans faire une symétrie totale, au moment où l'arrivée des téléphones avec tous les opérateurs, il y en avait partout, ça foisonnait, on ne savait pas où ça allait arriver, il y a eu pas mal de fusions, il y a eu pas mal de changements, il y a eu aussi les smartphones qui sont arrivés après, donc forcément, voilà, tout est possible, mais c'est vrai que comme tu dis, au début on pose la stratégie, on voit ce qui va fonctionner, on voit qui tient, qui va un peu dominer le marché. Et ça va jouer, de toute façon, c'est à la fin, c'est les consommateurs hein, qui décident.
Voilà, alors qu'ont décidé d'aller voir en salle eh bien, les spectateurs dans le monde ce week-end, c'est le moment, Julien, de parler de ce box-office inter et US.
Alors, on va faire un petit point sur le box. On va commencer sur le box-office US. Cette semaine, il a cumulé 63 millions de dollars de recettes, avec en tête Civil War pour la deuxième semaine de suite. La semaine dernière, il était à 75 millions de dollars de recettes. Donc ça lui fait un cumul à Civil War de 44 millions. C'est le cinquième meilleur score pour A24. On avait Everything Everywhere qui était à 77, Uncut Gems qui était à 50, Lady Bird 48, Talk to Me 48 et Civil War qui arrive en cinquième position à 44. Derrière, c'était Abigail. Abigail qui a un petit peu déçu, qui était en dessous des attentes.
C'est quoi Abigail d'ailleurs?
C'est la nouvelle production Blumhouse. Donc du studio Blumhouse qui ouvre quand même au-dessus de Immaculé et de Imaginary.
Oui, mais il coûte plus cher que dans les stratégies classiques de Blumhouse, puisqu'il est autour de 30 millions et qu'il aurait besoin d'un cumul worldwide de 100 millions pour rentrer dans ses frais. Et on sait que d'habitude, Blumhouse partait sur des films entre 5 et 10 millions, donc forcément, les attentes étaient un petit peu moins fortes. Mais tu as raison, c'est exactement comme The Omen. En troisième position, on retrouve Godzilla qui tient, puisqu'il est à 171 millions. Il a perdu que 39% cette semaine. Derrière, on a Lionsgate qui a sorti le dernier Guy Ritchie. Alors, je crois qu'il va sortir sur des plateformes. En tout cas, en France, il n'a ni distributeur, ni date de sortie.
Bah, je crois que Guy Ritchie, il est maintenant abonné aux plateformes en France.
On a regardé avec Julien, c'est vrai que le dernier était sorti directement sur Prime, il me semble.
Les deux derniers, j'ai l'impression.
Il a ouvert à combien? On a oublié de le.
Le dernier, c'était Un homme en colère, c'est ça?
En France, c'est un nom clair.
Et donc là, il a ouvert à 9 millions. The Gentleman lui avait ouvert à 36. Un homme en colère avait ouvert à 27. Opération Fortune avait ouvert à 6. Et The Covenant avait ouvert à 16.
Ah, ça, c'était Opération Fortune et The Covenant qui sont sortis directement sur la plateforme. Oui.
Et on termine avec Spy And Family Code, alors je ne sais pas au niveau du titre, le Crunchyroll. Alors c'est le cinquième meilleur résultat pour un Crunchyroll sur le territoire US, puisqu'il a ouvert à 5 millions. Et Kung Fu Panda qui tient, qui est à 179 millions de dollars. Alors on va passer au Worldwide. Arthur, si tu veux te lancer dessus.
Alors au Worldwide, on retrouve toujours en première position Godzilla vs Kong, qui cumule à ce week-end 31 millions de dollars, donc il en est à un cumul de 485 millions de dollars. En deuxième position, on retrouve le film d'Alex Garland pour son deuxième week-end, qui sur 40 territoires cumule 21 millions de dollars. Donc lui, il en est à 61 millions. En troisième, on a Kung Fu Panda avec 19 millions de dollars. Abigail, du coup, qui arrive sur 63 territoires avec 15 millions de dollars pour son premier week-end. Et on a ensuite Détective Conan de la Toho, qui est uniquement sorti au Japon et qui cumule 11 917 000.
Alors je t'interromps voilà. Juste deux secondes parce que je pensais que tu allais nous donner les cumuls en même temps. Donc le Godzilla, il est quand même tout de même à 485 millions de dollars.
Je ne sais pas dire. Bah non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas
si tu avais dit Civil War, je crois, à 61. Ouais. Le Kung Fu Panda, lui, il est à 480.
Ouais, donc vraiment côte à côte avec Godzilla.
Ouais, exactement. C'est tout de même des bons résultats d'aller chercher le demi-milliard, ouais. Puisque ça faisait longtemps même sur les films d'animation. Alors Abigail, lui, il est à 15 millions, donc ça n'a pas bougé. Est-ce qu'il y a un petit problème sur les films de vampires? C'est à se poser la question, puisque si on reprend Morbius, Invitation, Renfield ou Le Dernier Voyage de Déméter, on peut pas dire que c'était flamboyant. Peut-être falloir arrêter les vampires.
Ça fait peur pour les prochains films de vampires.
Ouais, parce que je crois qu'il y a Nosferatu qui arrive à fin d'année, il me semble, mais bon.
Et je te laisse reprendre, t'en étais ouais, à Ghostbuster.
On était à Ghostbuster, donc vraie déception, qui lui cumule 176 millions avec un cumul au week-end à 11 millions de dollars sur 60 territoires. Est-ce que la franchise est essoufflée? Est-ce qu'il fallait la recommencer? Est-ce qu'il y aura un 3? Que de questions qui restent en suspens avec les scores de ce nouvel opus de la saga SOS Fantôme. Ensuite, on a du coup le film de Guy Ritchie, donc on en a parlé tout à l'heure, qui cumule au Worldwide 9 700 000 dollars. Lui est sorti dans 13 territoires, mais comme on l'a dit, la France n'est pas concernée. Et on a ensuite Dune 2 qui continue son chemin, qui lui cumule 695 millions de dollars, 696 même on peut dire, avec un cumul ce week-end de 7 millions de dollars supplémentaires.
Et puis il y a eu la sortie de Back to Black.
Absolument, qui lui cumule 6 millions de dollars et qui en est à 16 millions de dollars. Le film performe très bien, j'avais vu ça en Angleterre, donc là il est disponible sur 37 territoires et il sortira mercredi dans les salles françaises. Et
je crois qu'au UK il a fait plus de 6 millions de dollars de recettes, donc après je vous laisse lui mettre un prix moyen pour le retrouver en entrée, mais ça vous donne une petite idée, un beau démarrage en tout cas.
Et ce serait donc le deuxième succès pour un film inspiré de l'univers de la musique, en tout cas d'une célébrité de la musique. Après évidemment, Marley en début d'année, on va voir ce qu'il en sera en France.
Et le Spy X sur le Worldwide, c'est pas mal hein, quand même. Hein.
Ouais, 60 millions de dollars avec un cumul de 6 millions de dollars sur 13 territoires. C'est très correct, comme d'habitude, pour, j'ai envie de dire, ces sorties un petit peu événement de Crunchyroll.
De Crunchyroll, Sony, qui est donc de tous ces bons coups côté animé japonais. Bah écoutez, merci beaucoup. Donc on répète, hein, deux films japonais qui sont en fait deux animés. Je pense que Détective Conan, ça va être aussi un animé. Et puis le reste, maintenant, quasiment uniquement américain. Donc c'est quand même... Les films chinois ne sont plus là dans ce top. Hein. On avait dit que le Nouvel An avait forcément boosté en début d'année. Mais là,
c'est vrai qu'on les voit toujours arriver au mois de février. Mm. Et là, il y a une reprise en force des films américains, même si pour l'instant, le marché reste très faible au niveau worldwide. Et pour l'instant, en tête du box-office, je pense que c'est Dune.
Voilà, maintenant, on va voir si en France, ça s'est passé ou non de la même façon avec le top 10 tout de suite après un petit jingle.
Hyper beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
Le top 10 France, Arthur, avec pour commencer eh bien, un film d'animation qui profite à plein des vacances scolaires.
Absolument, qui profite aux familles, qui profite des vacances malgré un marché, on reviendra dessus globalement assez morose. C'est Kung Fu Panda 4 qui, pour sa quatrième semaine, cumule 249 864 entrées pour un total de 1,7 million d'entrées. En deuxième position, on a du coup le démarrage, le film d'Alex Garland, événement de cette semaine, sorti par Metropolitan, qui cumule pour son premier week-end 218 892 entrées et pour un cumul de 233 000 entrées avec les avant-premières.
Alors, deux films seulement au-dessus des 200 000 entrées. Julien, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est décevant? Qu'est-ce qu'on peut dire?
Je crois que tu as la réponse à ta question. Non, de toute façon, on est sur un marché malheureusement délicat, compliqué, même s'il progresse, puisque ça faisait 3 semaines qu'on était en dessous de la barre des 2 millions d'entrées. Et enfin, on a réussi cette semaine. Il y a quand même 2 zones en vacances, mais on est très, très loin des normes de saison. Généralement, même, il faut arriver à dépasser les 3 millions, voire aller chercher les 4 millions. L'année dernière, il y avait Mario et les 3 mousquetaires qui boostaient le marché. Donc forcément, on commence à s'inquiéter.
Surtout que ce n'est pas que par rapport à l'année dernière que c'est décevant, c'est par rapport
aussi à 2022.
Ouais. Qui était déjà une année décevante en soi.
Exactement. Donc si on reprend depuis le début de l'année, on était arrivé à la fin du mois de mars, on était à moins 10% par rapport à 2023. Là, on risque de se retrouver sur un des mois d'avril les plus tristes depuis les 10 dernières années. On va se retrouver avec moins 17% par rapport à 2023. Je crois qu'on va, si on estime, on serait peut-être à 55 millions d'entrées quand en 2023 on était à 67 et quand en 2022 on était à 50 millions. Donc ouais, il y a une forme d'inquiétude qui se met en place. C'est vrai qu'il y a une série de blockbusters qui va arriver au mois de mai, mais on va dire que ça va, on espère que ça va booster. Ça va stabiliser le marché, la fête du cinéma va avoir son importance, les films d'animation vont avoir un rôle très important pendant cet été, mais c'est vrai qu'on s'inquiète un petit peu, même si octobre, novembre, décembre risquent d'être des mois très forts, en tout cas par rapport à la programmation, mais bon, tout ça on aura le temps d'y revenir évidemment, mais pour l'instant, c'est l'inquiétude qui nous guette.
Même si le marché est quand même en nette hausse par rapport à la semaine dernière, qui était abyssale, hein, on s'en souvient, avec des températures pour le coup au sommet, et là on a eu un week-end tout pourri.
Mais justement, le temps n'était pas bon en plus.
Voilà, c'est ça, on aurait dû avoir, alors c'est ça toute la difficulté une fois de plus, pour vous qui nous écoutez, à comprendre ces chiffres, c'est que si on prend l'exemple de Kung Fu Panda, il est en hausse de 19%. Dans l'absolu, on peut très bien commenter une hausse énorme pour Kung Fu Panda, en progression, c'est très rare de passer à plus 19% en quatrième semaine. Oui, mais d'un autre côté, on s'attendait, il fallait que le film, pour ses vacances, atteigne un niveau d'entrée acceptable. Et c'est décevant par rapport à ce qu'il aurait pu faire. Alors, en temps normal.
C'est décevant un peu là où il en est. Parce que si tu prends, il est à 1,7 million. Le premier Kung Fu Panda, après 4 semaines, il était à 2,2 millions. Le Kung Fu Panda 2, il était à 2 millions. Et le Kung Fu Panda 3, il était à 2,2 millions. Par contre, si tu te repositionnes sur la quatrième semaine, je pense qu'il y a eu vraiment un gap, en tout cas sur cette troisième semaine. Après, ça veut dire que ça va être sur plutôt les petits films. Comme tu dis, il n'y a que 2 films en dessous au-dessus de 200 000. Ouais. Kung Fu Panda, il revient à ses niveaux parce que cette semaine, il fait 244 000. Si tu prends la quatrième semaine de Kung Fu Panda, il était à 244. Le 2, il était à 253. Donc, tu as quelques films qui arrivent à se stabiliser, à récupérer. Le film va terminer entre 2,2 millions et 2,3 millions. Donc, il sera totalement aligné avec ce qu'il est capable de faire. Mais c'est dans l'ensemble du marché.
Oui.
Parce que même Civil War, on y revient, mais il démarre à 233 000, il va être sur une fourchette, il peut aller chercher entre 600 et 800 000 entrées. C'est pas un mauvais score.
Non, mais est-ce qu'on doit s'en satisfaire pour le film événement de la semaine?
C'est pas assez. C'est aujourd'hui, comme tu dis, il faisait pas beau, il n'y a pas de réelle locomotive pour booster tout ça.
On avait dit, il y a quelques semaines, mois de ça, que sur le papier, cette année semblait compliquée. Et c'est vrai qu'on va en parler juste après avec SOS Fantôme et Godzilla, qui en soi font des scores plutôt honorables, hein, compte tenu du marché, surtout d'ailleurs pour Godzilla. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le film qui va d'un coup faire en sorte que le marché va progresser. Et ça, on le voit avec 2 indicateurs. Que vous commencez à connaître, c'est d'une part la moyenne par copie. Si on regarde les 2 premières places qu'on évoquait tout à l'heure, Kung Fu Panda et Civil War, alors Kung Fu Panda on est à 194 parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de cinéma en France qui le joue, hein, 1288, et Civil War, donc il faut savoir que 1288 copies, on peut dire que toute la France est servie sur Kung Fu Panda. Et c'est normal parce qu'on est en quatrième semaine et généralement en troisième ou quatrième semaine, qui plus est quand on est en période de vacances et que le film est sorti un peu avant, là ça explose à ce moment-là le nombre de copies. Et Civil War, lui, est sorti sur 557 copies. Pour un film, A24, c'est, à ma connaissance, un record. Pour un film donc indépendant, c'est quand même assez exceptionnel. Et malgré ces bons chiffres, peine à dépasser les 400 de moyenne. Alors ça reste une très belle moyenne, mais c'est pas non plus au-dessus des 500.
En fait, presque ses résultats seraient honnêtes ou convenables si devant, tu avais encore des films qui fonctionnent et qui vont chercher du 500, 600 000 entrées. En fait, il manque des films devant.
Ouais, exactement. Et ça se voit aussi, je disais, sur un autre indicateur qui est la moyenne par séance, où on va le voir avec les deux autres films dont on va parler là tout de suite, aucun ne passe les 30 entrées par séance en moyenne. Donc là aussi, ça donne ils sont tous entre 20 et 30. Donc bon, c'est pas pour tirer une sonnette d'alarme, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, même les films dont on parle, qui sont censés faire événement, ont du mal à performer, en dehors de Dune 2, sortie maintenant il y a déjà 8 semaines. C'est difficile de trouver un moteur dans ce box-office.
Après, ce qu'il aurait fallu, là, c'est-à-dire que tu as Civil War qui sort, mais il aurait fallu un blockbuster français, américain, en plus, voir un autre film d'animation pour donner le change aussi à Kung Fu Panda. Ouais. Et là, tu te serais peut-être retrouvé sur un marché un petit peu plus digne, autour de 3 millions.
Parce que voilà. Tu as raison, il y a aussi l'idée de donner le change. C'est-à-dire que ça peut être une expression comme ça, mais je trouve qu'elle est très pertinente parce que quand vous avez des enfants qui veulent aller voir Kung Fu Panda, parfois il faut aussi que les adultes puissent aller voir autre chose. et si dans les films tout en haut du top, il n'y en a pas un qui les motive, c'est parfois un peu compliqué. Et donc ça peut aussi, certains films, certains succès entraînent d'autres succès.
On peut pas dire que l'offre n'est pas là quand même, parce que quand on voit un SOS fantôme, même pour les enfants, un deuxième film qui pourrait attirer les familles, comme Du Cobu, on en est au cinquième, tous les autres avaient quand même fait des scores plus que convenables, un Nous les le roi ou même un Ici là-bas sorti cette semaine, on peut dire qu'il y en a pour tout le monde.
Tu as donné jusqu'au top 7, là. Alors on va revenir dessus, SOS fantôme, on peut dire à combien il est d'entrée maintenant?
SOS Fantôme, il cumule 494 000 entrées et puis ce week-end, il a fait 186 000 entrées.
Et c'est mieux qu'Afterlife, lui, qui en était à 411 000.
Donc quand même positif, on le disait, pour SOS Fantôme. Godzilla, on disait encore une meilleure surprise, une meilleure performance, avec pas loin de 850 000 entrées au compteur maintenant. Et Arthur, sur le week-end,
160 000 entrées. Pour ce troisième week-end.
Voilà, et seulement moins 17%. SOS Fantôme, c'est moins 10%. Du Cobu, lui aussi, profite, tu le disais, Arthur, des vacances avec carrément plus 52%. Ce qui lui fait du bien, parce qu'il était quand même, on le disait la semaine dernière, en retard par rapport au temps de passage des précédents. Là, donc, il arrive à combien sur le cumul des trois premiers week-ends?
550 000 entrées. Est-ce qu'on t'a le comparable par rapport aux autres?
686 pour Du Cobu président et 1 040 000 pour le Du Cobu 3, lui qui était sorti en 2020.
En troisième semaine.
Mais donc il faudra quand même aller chercher.
Donc pas évident qu'il aille chercher son million. Ce serait le premier, je crois. En même temps, on est à Du Cobu 5, hein. C'est du pas non plus.
Généralement, le cinquième, le quatrième, généralement, c'est bien. Et le cinquième, c'est vrai. Alors après, on a Nolé le Roi. Alors Nolé le Roi, à la fois, c'est tout à fait honorable. En plus, il a une petite baisse de moins 7%, 332 000 au cumul. 128 000 là sur le deuxième week-end, mais c'est vrai que on avait senti, peut-être à tort, hein, mais dans la profession, il y avait un petit buzz autour du film là depuis janvier. On s'attendait à un truc de gros. Tu parlais, Julien, d'un film français qui met un peu tout le monde d'accord. On pensait que ce sera celui-ci. 330 000 entrées, finalement, il rentre un peu dans le rang des comédies qui fonctionnent sans pour autant être des très gros hits. Donc on va voir comment il se maintient pour la suite, puisqu'il là, il est encore à l'affiche de plus de 500 copies. Hein, donc,
les retours spectateurs sont globalement positifs.
Ils sont très positifs et il est au-dessus de la comédie française sortie mercredi dernier, légèrement au-dessus, puisque Nous les Leroux est à 128 000 au week-end. Et Ici et là-bas, que tu mentionnais, Arthur, est à 124 268 pour un cumul à 125 000. Il n'y avait quasiment pas d'avant-première. C'est Studio Canal qui sortait ce film Ici et là-bas. Là, je ne sais pas, Julien, tu voulais commenter éventuellement?
Non, il est en 12e position sur les films français sur l'année 2024. Après, on suppose qu'il va terminer au-dessus des 500, voire il pourrait aller chercher un petit 600 justement parce qu'il a une belle tenue. Donc 600, ça l'amènerait en cinquième position. Donc t'imagines le bon. Mmh. Est-ce que justement, c'est pas se dire, je suis à 600 000 entrées, je suis en cinquième position du Top France de l'année 2024. Tu dis, il manque...
Tu parles d'Essier là-bas ou de Nous les Leroy?
Pardon, Nous les Leroy.
Voilà, on est passé sur Essier là-bas. Mais effectivement, effectivement, on est basculé sur Essier là-bas.
Toutes mes confuses.
Non, mais parce que voilà, c'est un tour de réaction, il n'y a pas de souci. Mais donc, oui, ça devient de toute façon, ça c'est une vérité qu'on retrouve de mois en mois, de plus en plus compliqué pour les comédies françaises d'aller passer les 500 000 entrées. Et on pourrait même dire qu'Essier là-bas fait un très bon débarrage. Avec 125 000 au premier week-end, là où on aurait dit il y a quelques temps que c'était un peu décevant, ça reste
14e meilleur démarrage, plutôt solide. Ça rend, en fait, ça rentre dans le rang. Si tu vois, aujourd'hui, un démarrage à 130 000 sur une comédie française, on dit bah, c'est positif.
Exactement. Là où on aurait dit il y a quelques temps, c'est décevant, on en revient à revoir à la baisse un peu.
Exactement.
Et donc plutôt une réussite pour ce canal. Toutefois, moins forte en termes de moyenne par copie que celle du film suivant, Arthur. Borgo,
oui, qui arrive avec 78 000 entrées, 781 entrées. Donc le film avait 5800 entrées d'avant-première. Sur 233 copies, il a une moyenne de 313 spectateurs par écran.
Très belle sortie pour le pacte, pour ce film carcéral. Le nouveau film réalisé par Stéphane de Moustier.
Deuxième meilleur démarrage derrière La fille au bracelet, lui qui avait ouvert à 110 000 entrées.
Oui, mais vous voyez aussi, c'est peut-être ce tassement des entrées dont on parle là qui fait la différence hein, entre La fille au bracelet et Borgo. On retrouve ensuite à la 9e place de ce top 10 un film dont on a déjà parlé, Spy X Family Code, enfin je ne sais pas comment on dit en fait tout ça, je ne sais plus, le film Crunchyroll distribué par Sony. Désolé pour les fans, mais on est à 73 000 entrées quasiment. C'est plutôt une belle performance hein, quand même. Par rapport aux autres films du marché, c'est pas fou, mais c'est vrai qu'on a presque tendance à aller voir tout de suite à plus de 100 000 entrées ces films-là.
C'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire il y a un événement autour, il y a une niche qui se crée autour du film, ça peut aller chercher des démarrages à 200 000, mais je pense que pour le film, en tout cas, moi je connaissais pas.
Moi non plus.
C'est souvent des événements. Sur ponctuel. Une soirée unique aussi ponctuelle, là, ouais. Est-ce que le film est en exploitation normale, il me semble ?
Bah écoute, en tout cas, c'est plutôt positif d'arriver à la 9e place du top. Et il devance La Malédiction, l'origine, le film distribué par Disney, qui lui rame un peu, même si il en est quand même à 160 000 entrées.
Ah, on avait dit qu'il allait terminer autour de 250, je pense que ça va être le cas. Ouais, 250, 300. Ouais, plutôt une bonne tenue, parce que généralement, en deuxième semaine, sur un film d'horreur, parce qu'il avait ouvert à 80 000.
Il a des bons retours, je crois.
Et le film est moins de 16 ans. Enfin.
Ouais, moins de 16. Donc bon, il n'a pas non plus de grosse concurrence sur le terrain horrifique. Et il parvient quand même à faire plus que Dune 2 qui arrive juste derrière et que Monkey Man, on peut le signaler, on en parlait la semaine dernière parmi les sorties importantes, qui fait 43 000 entrées au week-end sur 251 copies. Là, c'est un peu une déception.
Monkey Man, c'est complètement une déception. C'est vrai qu'on le voyait plus tôt. C'était le John Wick indien. On pensait qu'il arrivait avec une hype. Et c'est vrai que malheureusement, là, les 42 000 entrées, c'est largement en dessous des attentes. Et juste pour ma fille, je reviens juste sur Dune 2. Oui. Et pour le comparer à Oppenheimer. Donc là, il a passé les 4 millions d'entrées enfin.
Oui,
donc
c'était en quand 8e même l'information semaine, principale.
Mais Oppenheimer avait passé, je crois, les 4 millions d'entrées en 6e semaine.
Ah, voilà.
On vérifiera tout ça avec ma fille.
Est-ce que chacun d'entre vous peut me donner un autre chiffre qui l'a marqué sur ce week-end ? On ne va pas passer en revue tous les films non plus, parce qu'il y en a beaucoup. 90 films de répertoriés dans ce top. Mais... Ouais,
50 000 entrées pour la reprise des Choristes. Je trouve ça tout à fait honorable pour un film, pour une reprise, surtout pour une sorte de ressortie sans condition vraiment, à mon avis, drastique de programmation. Ça prouve que l'envie était de revoir, enfin auprès des spectateurs, l'envie était de revoir ce film en salle.
20 ans après sa sortie, Julien ?
Ouais, le mal n'existe pas, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, distribué par Diafana, alors Ryusuke Hamaguchi.
Oui, tout à fait. Film japonais, on rappelle.
Film japonais, et à chaque fois, cet auteur, il arrive à terminer autour des 150 000 entrées. Donc c'est toujours, alors sauf au tout début, il fallait connaître un petit peu, mais c'est vrai que le Drive My Car c'était 222 000, les Contes du Hasard et autres Fantasy 163 000, et il va rééditer pour la troisième fois de suite sur des films qui sont a priori pas évidents pour aller chercher 150 000 entrées et plus.
Mais il y a un vrai appétit hein, du public français pour les films japonais.
On le voit avec Art House.
On le voit avec Art House, on peut estimer cet appétit à 100, 150 000 entrées, justement, parce qu'on voit à chaque fois qu'il y a cette niche de spectateurs qui semble très fidèle au rendez-vous. Et là, en plus, avec des critiques dithyrambiques sur ce film qui succède à un film qui avait déjà reçu lui-même, Drive My Car, beaucoup de critiques, au point de gagner même le prix de l'AFCA à Cannes il y a quelques temps. Donc très positif pour Diafana avec ce film. Moi, je voulais aussi évidemment citer la belle performance pour un documentaire, enfin un docu-fiction, L'homme aux mille visages, dont on parlait également la semaine dernière. On avait signalé notamment son beau démarrage au Hall. Et bien, ça s'est vérifié par la suite, hein, puisque avec seulement 60 copies, il totalise 13 903 entrées, en incluant les 1164 d'avant-première à l'issue du premier week-end. Là encore, on peut être ébahi par ces entrées, puisque ça représente 212 de moyenne. Pour l'économie d'un film documentaire, c'est tout à fait exceptionnel d'arriver à ce chiffre-là. Donc L'homme aux mille visages, qui lui aussi bénéficie de très belles critiques, et signaler aussi, puisqu'on parlait d'Art House à l'instant, que Sidonie au Japon, encore le Japon, cette fois peut-être un peu aidé par son actrice principale Isabelle Huppert, mais a passé les 100 000 entrées. Art House qui avait signalé que c'était leur meilleur démarrage, au meilleur premier week-end, je ne sais plus, meilleure première semaine. Enfin, en tout cas, là, ils ont passé plus vite que d'habitude les 100 000 entrées. Donc voilà, de belles performances dans un contexte morose ou compliqué. Alors, qu'est-ce qui sort dans la semaine à venir? Eh bien,
Va booster le marché?
Eh bien, on en a sélectionné 4 avec ma fille pour le sondage X de la semaine. Ces 4 films sont... Arthur, je te laisse les nommer.
Alors, on a en première position le nouveau film de Luca Guadagnino, Challengers, qui arrive en première position. On a ensuite le biopic de Amy Winehouse, Back to Black, qui sera sorti par Studio Canal. On a ensuite le film N'avoue jamais, le nouveau film d'Ivan Kalberak, qui sortira demain également. Et enfin, Frère, le film distribué par Zinc, qui sera porté par Yvan Attal et Mathieu Kassovitz. Mais ce ne sera pas la seule nouveauté, parce qu'il y en a...
Non, je vais juste signaler quand même que Challengers devance nettement la concurrence avec 74% des votants. Bon, le sondage n'est pas terminé, hein, mais ça montre quand même...
Une vraie envie.
Une vraie envie, ouais. Alors, est-ce qu'il y a un effet Zendaya? Est-ce que... Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de ce film suite à la French Convention du début d'année, on avait vu les premières images, et aussi par rapport à notre podcast dans les locaux de Warner, parce que c'est Warner qui sort le film. Et c'est vrai que Challengers, je trouve, a quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps, quelque chose de sexy.
De sulfureux.
Quelque chose de sulfureux. Quelque chose qui nous rappelle...
Les années 90 ?
Je n'osais pas le dire, Julien. Je n'osais pas le dire, parce qu'on va encore me dire, tu nous renvoies tout le temps aux années 90.
Mais on y est, je suis d'accord.
Mais je pense que ce film aurait été nommé Sexe quelque chose, qui était sorti dans les années 90.
Bah, la bande-annonce est rythmée et donne très envie, ouais, pour le coup. Ouais. Et puis il y a le gage d'attirer un jeune public avec justement Zendaya. Il y a le gage aussi un petit peu cinéville, ça reste quand même Luca Guadagnino.
Bah, en tout
même
cas,
si le score de ses derniers films n'était peut-être
ouais,
pas...
Il y a un bon mixte.
Alors voilà, c'est dans l'univers du tennis, mais ils le vendent pas comme un film de sport non plus. Donc plus un film sulfureux. Donc on verra comment il se comporte, mais c'est intéressant. Je trouve que c'est une proposition en plus qui est originale, qui est pas adaptée de quelque chose de déjà connu. Donc tout comme d'ailleurs Civil War, hein, il faut quand même le rappeler, parce qu'on a beaucoup parlé de Godzilla, on a parlé de Ses Fantômes, de Kung Fu Panda, de Dukobu. Tout ça, c'est des films qui sont des suites, mais qu'un film comme Civil War parvienne à se hisser en haut du top, à la fois monde et France, et que ce soit un film original, et que là, on voit une envie sur Challengers, bah, de nouveauté, voilà, ça, je trouve que ça met du baume au cœur. Et ça montre aussi que les spectateurs ont peut-être plus trop envie de formules déjà vues et revues. Quoi. Oui. Donc on verra. Mais comme tu le disais, ce ne sont pas les seules nouveautés de cette semaine. Alors il y en a combien en tout ?
Il y en a 18. Donc moins les 4 qu'on a déjà cités, il en reste 14. Donc Star Invest proposera dans les salles dès mercredi le film Le Mangeur d'âme, porté par Virginie Ledoyen. On aura une proposition de KMBO également, Sky Dome 2123. Ou 2123, un film de science-fiction. On aura aussi un CGR Event Mobile Suite Gundam Seed, donc un animé japonais. Tandem sortira Première Affaire avec Noé Habitat. On aura ensuite Gaumont qui sortira un drame, le drame Notre Monde.
De Luana Bajrami, qui dont le précédent film était à Cannes et avait été sorti par Le Pacte. Donc c'est une sortie sur moins de 100 copies, à noter quand même pour les films qu'on va mentionner maintenant. Et donc tu disais également un film du côté de Dulac.
Oui, Dulac Distribution proposera Le Déserteur de Danny Rosenberg. On aura ensuite du côté d'Épicentre L'Échappée d'Anthony Chen, un drame. On aura Le Jeune Chaman proposé par Arizona Distribution. Et ensuite on passe entre 10 et 50 copies. Donc New Story proposera le documentaire Les Vieux. On aura... Les Mire Visages qui proposera un thriller qui est nommé Citadelle. On aura ensuite Hésiode Production, Que notre joie demeure, et un thriller de DHB Production, si je le dis bien, qui proposera le film Indivision.
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 Indivision. Indivision. Si vous allez le voir, faites-nous signe.
Vous arrivez à la caisse, vous dites Indivision.
Vous dites, je viens de la part d'Arthur Pavlovski, je vais avoir Indivision, la suite de Civil War.
Et après, du coup, on est sur les moins de 10 écrans, MK2 Film Occupied City. On a le répertoire avec une grosse sortie, on peut le dire, d'un film culte de Paul Verhoeven. Splendor ressort une magnifique copie 4K de Robocop, premier du nom, voilà, qui sortira dans les salles qu'ils proposeront. Vous aurez Malavida qui sortira Bushman, Les Maîtres du Temps de Tamassa, et on aura aussi trois spectacles de concerts et d'opéra, un concert qui m'a tout l'air d'être de la K-pop de Pathé Live, et Macbeth et l'Acmé, donc théâtre et opéra, Pathé Live et Fra Cinéma.
Voilà, on rappelle qu'on peut vous citer toutes ces sorties grâce à l'agenda dynamique de Terminus, nos amis Alain Odorico et Michael Moulière, qui nous écoutent, je le sais bien, et qui font un travail remarquable pour nous permettre d'y voir plus clair dans ces sorties, parce que c'est vrai que parfois c'est pas évident, et là vous voyez, rien que pour accéder au nom du distributeur, parfois c'est pas, parce qu'on essaie de savoir, mais on n'a pas forcément les réponses à tout avant l'émission. Dans tous les cas, c'est une semaine qui sera encore normalement riche en entrées, puisqu'il y aura les vacances de deux zones encore cette semaine. On espère que ça va décoller, et nous, on se retrouve évidemment dans quelques jours pour un nouveau podcast, et je vous le disais en introduction, on espère de belles petites surprises à vous réserver prochainement. Merci Julien, merci Arthur, et à très vite sur Débrief Film.
Bye bye.